suite du commentaire du récit de l'Annonciation. L'ange énonce son message. Voici que tu concevras dans ton sein et tu enfanteras un fils et tu l'appelleras du nom de Jésus. L'ange reprend ici l'oracle messianique du prophète Isaïe au chapitre 7 qui concernait l'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Mais ici, le nom de l'enfant est précisé un peu différemment, Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve. Ce nom exprime la mission du Messie, suivant l'expression du prophète Sophonie, « Le Seigneur, ton Dieu, est en ton sein, en vaillant sauveur. » C'est le prophète Sophonie au chapitre 3, le verset 17. L'insistance sur le caractère virginal de Marie au début du récit prend alors tout son sens parce que dans l'Ancien Testament, cet oracle du prophète Isaïe au chapitre 7, dans sa version grecque, utilisait le terme aussi de vierge. La vierge enfantera. Alors que le terme hébreu était un mot qui portait les deux sens, jeune fille ou vierge, la traduction qui avait été choisie par les Septante, les traductions grecques, avait été le terme spécifique de vierge. Et donc, lorsque l'ange reprend, lorsque l'évangéliste insiste sur ce terme dans l'introduction du récit, il est en train de mettre en place les éléments de l'accomplissement de la prophétie d'Isaïe. L'ange nous dit que Jésus sera grand. Et là, quand on se souvient de ce qui avait été dit de Jean-Baptiste dans l'annonciation de sa naissance, Jean-Baptiste, il était dit qu'il serait grand en présence du Seigneur. Ici, il est simplement grand, c'est-à-dire grand de façon absolue, comme les psaumes notamment l'affirment de Dieu. Vous pouvez regarder le psaume 76 au verset 14, ou le psaume 85 au verset 10, ou le psaume 94 au verset 3. Les mentions qui suivent sur sa royauté et sur son règne sur la maison de Jacob qui ne connaîtra pas de fin, la mention qu'il occupera le trône de David son père, marque l'accomplissement de la promesse faite à David au deuxième livre du prophète Samuel au chapitre 7. C'est un des points clés de l'écriture, cette promesse d'un fils de David qui règnera éternellement et qui sera devant Dieu son fils. Je voudrais remarquer que cette promesse faite à David, elle avait été faite 1000 ans auparavant pour la Vierge Marie. 1000 ans auparavant. Voilà une promesse qui a été conservée pendant 1000 ans et que l'on voit s'accomplir. Je note ceci pour que nous prenions conscience aussi du temps de l'accomplissement de l'histoire sainte. Nous sommes dans un temps, dans une société où le temps s'est peut-être concentré comme jamais. Tout va beaucoup plus vite. Tout doit, dans notre esprit, pouvoir être réalisé immédiatement. Il y a une durée de l'histoire sainte. Il y a un temps de l'attente, un temps de l'attente fidèle. Et cette attente fidèle a été portée par le peuple d'Israël, a été portée par la Vierge Marie. Et cela peut aussi nous interroger. Sommes-nous prêts à vivre aussi ce temps de l'attente par rapport à l'accomplissement du plan de Dieu? La promesse faite à David avait été réalisée 1000 ans auparavant, et elle n'avait pas été oubliée, rejetée, perdue par Israël. Sommes-nous prêts aussi à attendre l'accomplissement, le plein accomplissement des promesses du Christ, quand justement cet accomplissement vient à durer, quand l'attente de cet accomplissement vient à durer? C'est peut-être tout particulièrement important en ce moment de confinement, hein, où le temps peut nous sembler bien long, à ne pas pouvoir bouger, à être privé de nos activités ordinaires. Et en même temps, souvenons-nous de cette parabole des vierges sages et des vierges folles. Ce qui faisait la différence entre les unes et les autres, c'est que les vierges sages s'étaient préparées à durer, s'étaient préparées à devoir durer, à pouvoir durer. Elles avaient pris de l'huile en réserve. Sommes-nous prêts à prendre cette huile en réserve pour durer, pour conserver cette promesse du Seigneur et pour attendre fidèlement cet accomplissement, quand bien même cette attente dure? Je reprends le commentaire. Marie interroge alors sur le chemin de réalisation de cette promesse. Comment cela sera-t-il puisque je ne connais pas d'homme? Il faut noter ici une différence entre sa question et la question de Zacharie. En effet, Zacharie, dont le nom d'ailleurs signifie « Dieu se souvient », donc il aurait bien fait de se souvenir, aurait pu donc se souvenir que dans l'histoire sainte, il y avait déjà eu des femmes stériles qui avaient fini par enfanter, mais qui avaient enfanté de façon naturelle après des rapports conjugaux avec leur mari. Or ici, Marie comprend que cela doit s'accomplir alors même qu'elle ne connaît pas d'homme. Alors ici, il faut quand même faire un point de vocabulaire. Quand elle dit qu'elle ne connaît pas d'homme, c'est pas qu'elle ne connaîtrait pas Joseph, à qui elle est fiancée. C'est qu'elle n'a pas encore de relation sexuelle avec lui. Petit point sur le mariage à l'époque. Lorsque on dit que les fiançailles sont scellées, en fait le mariage est déjà scellé. Simplement, il y avait une période au début du mariage où les deux époux ne faisaient pas encore vie commune. Et puis, il y avait une célébration particulière où l'époux allait chercher l'épouse et la ramenait chez elle. Et donc, en ce qui concerne Marie et Joseph, nous sommes dans le temps où leur mariage a effectivement été scellé, mais où ils ne mènent pas encore vie commune. Ils n'ont donc pas encore de relation conjugale. Ils n'ont pas eu de relation conjugale. Et c'est à ce moment-là donc que la demande de l'ange intervient. D'où la question de Marie. Le verbe « connaître » à ce moment-là, dans l'Écriture, a cette portée de connaître intimement, de connaître jusqu'à la relation conjugale. C'est régulièrement dans l'Écriture un euphémisme pour parler des relations conjugales, quand on nous dit « un tel connut sa femme ». Or, une naissance sans qu'il y ait de relation conjugale, cela est inédit dans l'Écriture. Donc elle ne peut pas faire mémoire de quelque chose qui se serait passé de la même façon précédemment, à l'inverse de Zacharie. Il y a quelque chose de complètement nouveau, d'où l'interrogation, quel chemin va-t-il falloir suivre pour que cela se produise? L'ange lui répond, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. » Il y a dans les paroles de l'ange ici un rappel de ce que l'on pouvait voir au temps de l'Exode lorsque la nuée descendait sur la tente où se trouvait l'Arche d'Alliance. La nuée qui représentait, qui manifestait la présence du Seigneur, descendait et remplissait la tente de sa présence. Voilà, la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est cette présence de Dieu qui descend sur elle, comme autrefois la présence de Dieu dans la tente de l'Alliance. Et du coup, il y a l'un des éléments des litanies de la Vierge Marie qui s'éclaire lorsque on nous parle de la Vierge Marie comme l'Arche de l'Alliance. Elle est Arche de l'Alliance parce que la nuée du Seigneur, la puissance du Seigneur, l'ombre de la puissance du Très-Haut est descendue sur elle, l'a recouverte, et parce que elle est devenue ainsi porteuse de du Fils du Très-Haut, celui par qui sera scellée l'Alliance nouvelle et éternelle. L'ange donne alors un signe à la Vierge Marie. Un signe qui va lui permettre de comprendre, une attestation, que ce qu'il dit va se réaliser. C'est le signe de la grossesse d'Élisabeth. Élisabeth, ta parente, vient elle aussi de concevoir un fils dans sa vieillesse. Elle en est à son sixième mois, elle qu'on appelait la stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Alors, le fait de donner un signe est quelque chose que l'on retrouve dans l'Écriture, notamment lorsqu'on est face à un événement nouveau. Voilà, Dieu va donner des signes lorsque, j'allais dire, il y a quelque chose de nouveau qui se produit, et donc on ne peut pas faire mémoire de ce qui aurait déjà été fait. C'est nouveau, ça n'a jamais été fait. Et donc la Vierge Marie reçoit ce signe, la grossesse de sa parente Élisabeth devient le signe que sa propre grossesse se réalisera. Et cette parole de l'ange pour terminer, car rien n'est impossible à Dieu. Eh bien, cela peut nous amener à nous interroger nous-mêmes sur la façon dont nous sommes friands de signes ou pas, dont nous sommes capables de faire mémoire aussi des signes qui sont donnés, et des signes qui sont donnés pas simplement à nous personnellement, mais à nous à travers la mémoire de l'Église. Nous sommes possesseurs des signes qui furent donnés dans l'histoire sainte, ne l'oublions pas. Et l'histoire sainte, ça ne se termine pas simplement avec la rédaction de la Bible. L'histoire sainte, elle se poursuit avec l'histoire de l'Église, l'histoire de ses saints. Il y a dans leur vie des signes qui nous sont donnés, qui sont donnés pour fortifier notre foi. Et donc, face aux signes, j'allais dire, évitons deux écueils, celui du roi Achaz dans la première lecture de la solennité de l'Annonciation, alors que le prophète vient à lui pour lui dire « Le Seigneur va te donner un signe pour que tu puisses avoir confiance » et qui refuse de recevoir le signe du Seigneur, ou l'écueil inverse, celui de réclamer sans cesse des signes en ne faisant pas mémoire de ceux que nous avons reçus et de ceux qui nous sont transmis à travers la mémoire de l'Église et de son histoire sainte et de l'histoire des saints. L'épisode se termine avec le consentement de la Vierge Marie. Marie dit alors « Je suis la servante du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole ». Vous voyez, ce n'est pas seulement « je suis la servante du Seigneur » qui serait, on pourrait dire, simplement le constat de ce qu'elle est, et ce serait déjà bien, parce que c'est être la servante du Seigneur, c'est l'opposé de « je ne servirai pas » du démon, c'est la reconnaissance de son état de créature et de son lien au Seigneur, mais pas seulement cela, il y a l'expression de son adhésion, qu'il m'advienne selon ta parole. Il y a un vrai consentement qui est énoncé. Il y a une vraie expression de sa liberté. Elle n'est pas simplement un paquet que l'on transporte, que l'on ballotte. Elle est une liberté qui répond à l'alliance du Seigneur. Quand bien même, on peut dire, on est dans une relation inégale, Dieu d'un côté, la créature de l'autre, il y a une vraie réponse, il y a un vrai exercice de la liberté, un vrai face-à-face, où l'expression de la liberté de la Vierge Marie était essentielle. Dieu nous a fait le don de la liberté pour que nous soyons capables de vivre un amour véritable. Il n'y a pas d'amour véritable sans liberté. Il n'y a pas d'entrée dans une alliance véritable sans une liberté véritable. Donc il peut dire oui, comme elle peut dire non. La Vierge accomplit sa liberté en répondant oui à la demande du Seigneur, en manifestant son consentement à la demande du Seigneur. Ce n'était pas accessoire. Le déploiement de la vocation de l'homme, ce n'est pas simplement de faire ce qu'on lui a dit. Ça, ce serait le robot, on l'a programmé, il fait ce pour quoi il a été programmé. L'être humain, comme image du Dieu libre et aimant, est appelé à faire, mais à faire à la suite de l'expression de sa liberté qui le fait entrer dans l'Alliance, à la suite de la mise en œuvre de sa liberté, de sa volonté, qui accepte, qui adhère à l'alliance qui lui est proposée. Le consentement de la Vierge Marie n'est pas une exécution sans cervelle. Il est expression et épanouissement de sa liberté don que Dieu nous a fait comme être à son image en vue de sa ressemblance, il est expression de sa liberté, riche des dons que Dieu lui a faits et qu'elle n'a pas perdus. Alors l'ange la quitta. Je vous disais au début du commentaire que je voudrais m'arrêter un instant pour comprendre qu'est-ce qui a pu réjouir l'ange, qu'est-ce qui a pu lui donner même de grandir dans l'exécution de sa mission. Eh bien, il a été donné à l'ange qui n'a pas de corps, un ange c'est un esprit, c'est un pur esprit, de voir se réaliser jusque dans la matière, cette matière de l'être humain qui est corps et âme, qui est cette union particulière de matière et d'esprit, il lui a été donné de voir s'accomplir le dessein de Dieu. Autant au commencement, on avait vu Adam et Ève échouer à vivre l'accueil du don de Dieu et échouer dans l'exercice de la liberté face à l'alliance que Dieu proposait. Autant là, c'est tout le contraire. C'est une humanité qui réussit. C'est une humanité et donc porteuse aussi de la dimension matérielle de la création qui recueille le don de Dieu et qui y répond, lui permettant cette intimité avec la présence de Dieu, permettant du coup à l'image de Dieu d'advenir jusqu'au cœur de la matière. Et ça, l'ange ne l'avait encore jamais vu, que la plénitude de la divinité se rende présent jusqu'au cœur de la matière, et cela est rendu possible par l'acquiescement de la Vierge Marie. Il y a une présence de Dieu dans une profondeur, jusqu'aux profondeurs, on pourrait dire, de la création et de la création matérielle qui survient. Et pour l'ange qui est adorateur de Dieu, il y a quelque chose de merveilleux et de magnifique à voir justement jusqu'où se déploie l'amour de Dieu, jusqu'où se déploie sa bonté toute gratuite. À travers l'acquiescement de la Vierge Marie, il contemple l'accomplissement de la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu perçue ici comme l'humanité, on pourrait même dire la création, qui épouse le dessein de Dieu. Qui épouse le dessein de Dieu comme on pourrait imaginer un voile très léger épouse la forme du corps qu'elle revêt. Avec l'acquiescement de la Vierge Marie, la création, jusque dans sa matérialité, épouse les contours du visage de Dieu, épouse les traits du visage de Dieu, et le rend manifeste d'une façon complètement inédite. Voilà ce qui peut réjouir l'ange de Dieu qui fut envoyé. Pour terminer, chers amis des cellules, je vous suggérerais volontiers un temps de prière en lisant ce texte de l'Annonciation et en demandant, avant de le lire, à l'archange Gabriel de vous partager quelque chose de l'émerveillement qu'il a saisi dans cette mission. Je vous souhaite un bon temps de méditation et un beau temps d'échange autant que faire se peut. Que Dieu vous garde.